Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Jeff Sessions, le ministre américain de la Justice, reconnaît avoir participé à une réunion sur la Russie pendant la campagne de Donald Trump. Il s'exprimait devant la Chambre des représentants. Les explications de notre correspondant Grégory Phillips dans un instant. La filiale suisse du géant bancaire HSBC va payer une amende de 300 millions d'euros au fisc français. Elle reconnaît avoir aidé des contribuables à échapper à l'impôt en France. La banque a signé en fait une convention judiciaire d'intérêt public. Nous verrons cela avec Florence Turme. Emmanuel Macron sonne la mobilisation générale en faveur des quartiers populaires. Le chef de l'État était à Roubaix pour promouvoir sa politique de la ville. Nous en parlerons avec notre invité, le communiste Patrick Braouezec, qui dirige le territoire de Pleine Commune en Seine-Saint-Denis. C'était un nouveau temps fort dans ce qu'il convient d'appeler l'enquête russe aux États-Unis. Le ministre de la Justice, Jeff Sessions, a été auditionné aujourd'hui à Washington par la Chambre des représentants. Les élus qui veulent savoir si, oui ou non, la Russie de Poutine a exercé son influence sur la présidentielle de 2016. Jeff Sessions faisait partie de l'équipe de campagne de Donald Trump. Le mois dernier, devant le Sénat, il avait nié tout contact avec des officiels russes avant le scrutin. Mais aujourd'hui, il a admis avoir participé à une réunion litigieuse. Grégory Phillips.
Devant les représentants républicains et démocrates, le ministre de la Justice lève la main droite et jure de dire toute la vérité avec l'aide de Dieu. Mes réponses n'ont pas changé, déclare Sessions. J'ai toujours dit la vérité et maintenant je vais répondre à chacune de vos questions. Je n'ai jamais menti. À plusieurs reprises, Jeff Sessions est interrogé sur cette réunion qui s'est tenue le 31 mars 2016 au Trump Hotel de Washington et durant laquelle le jeune conseiller aux affaires étrangères, George Papadopoulos, aurait, comme il l'a reconnu devant le FBI, proposé d'organiser une rencontre entre le candidat Trump et le président Poutine. Dans l'équipe de campagne, Papadopoulos est celui qui a des contacts directs avec plusieurs officiels russes. Franchement, dit Sessions, je n'avais aucun souvenir de cette réunion, jusqu'à ce que la presse en parle. Maintenant, je m'en souviens, mais pas des détails de ce que Papadopoulos a pu dire. Ce dont je me souviens à peu près, c'est que je crois lui avoir dit qu'il n'avait pas notre autorisation pour représenter le candidat auprès du gouvernement russe ou de n'importe quel gouvernement étranger. Le président Trump a-t-il réagi à la proposition de Papadopoulos, demande un parlementaire. Je ne m'en souviens plus, dit le ministre. Vous savez, c'était une réunion parmi d'autres il y a 18 mois dans le tourbillon d'une campagne électorale.
Grégory Phillips, merci. Jeff Sessions qui a promis aux élus une décision rapide quant à l'ouverture d'une enquête sur Hillary Clinton. Enquête réclamée par Donald Trump qui met en cause son ancienne rivale dans plusieurs dossiers, notamment la gestion de la fondation Clinton. C'est la première fois en France qu'une banque s'engage à payer une amende pour éviter un procès pour blanchiment de fraude fiscale. La HSBC Private Bank, filiale suisse du géant britannique, va verser 300 millions d'euros au fisc français. Une façon pour elle de reconnaître qu'elle a effectivement aidé de nombreux contribuables français à échapper à l'impôt. L'évasion fiscale présumée s'élève à 1,6 milliard d'euros. En termes juridiques, on dit que la filiale suisse de HSBC a signé une convention judiciaire intérêt public. Florence Turmes, c'est la première fois que ce dispositif, voté par l'ancienne majorité, est mis en œuvre.
Ce nouveau dispositif permet à une entreprise poursuivie pour corruption ou blanchiment de fraude fiscale de négocier une amende avec le parquet sans aller en procès. Le législateur y voit quant à lui un intérêt pragmatique. Lors du vote de la loi en 2016, il rappellera la longueur des procédures engagées, l'absence de condamnation définitive des sociétés étrangères, alors que les entreprises françaises, elles, ont versé des sommes colossales, notamment aux États-Unis dans des cas similaires. Ce n'est pas non plus une procédure de plaider coupable, même si l'entreprise en question reconnaît l'existence des faits et accepte leur qualification légale. HSBC s'engage ainsi à verser à l'État français une somme totale de 300 millions d'euros, un accord définitif sans recours possible désormais et homologué par le président du tribunal de grande instance de Paris. La filiale suisse du géant britannique échappe ainsi à un procès pour blanchiment de fraude fiscale, ce qui ne sera peut-être pas le cas de deux de ses anciens dirigeants. La convention s'applique uniquement à une personne morale et eux font toujours l'objet de poursuites pénales. Pas le cas non plus de la banque suisse UBS, avec qui une convention judiciaire d'intérêt public avait été envisagée, mais le ministère public et le groupe n'ont pas réussi à s'entendre s'entendre sur le montant des sommes à verser. UBS et sa filiale française devront donc répondre en correctionnel de blanchiment aggravé de fraude fiscale.
Florence Thur, merci. On en vient maintenant au déplacement d'Emmanuel Macron dans les Hauts-de-France pour défendre sa politique de la ville. Le président veut mettre en place des zones franches pour attirer les entreprises dans les quartiers en difficulté. Il compte aussi réserver à ces quartiers l'essentiel des emplois aidés sauvegardés. À Roubaix, Emmanuel Macron a sonné la mobilisation générale en faveur des quartiers populaires. Une façon pour lui de gommer son image de président des riches. Le reportage de Laurence Perron.
Monsieur Macron, l'abrogation de l'article 52 de la loi de finances, les APL.
Tourcoing, au petit matin, lors de l'un de ces bains de foule qu'affectionne particulièrement le président. Aller au contact, il adore, et plus c'est rugueux, mieux il peut tordre le cou à cette image de président des riches qui lui colle à la peau.
Je sais pas ce que ça veut dire, moi, avoir une politique pour les riches.
Pour sa première grande séquence, s'appuyer sur sa jambe gauche, Emmanuel Macron se commet certes physiquement, mais idéologiquement aussi.
Les chocs de la mondialisation qui a fracassé profondément certains territoires et que nous n'avons pas su relever ces défis en reconstruisant de manière rapide un véritable avenir pour les habitants des territoires qui avaient été alors fracassés.
Dans ce discours fleuve de près d'une heure et demie, le président annonce des mesures en rafale. Contre les discriminations à l'embauche, il faut pénaliser. Pour un plan crèche, une allocation revalorisée. Pour les femmes qui élèvent seules des enfants, des maisons de santé, l'accès à la culture. L'autre versant, c'est la fermeté. La République doit être exigeante, rigoureuse et autoritaire. Pas question pour autant de faire le lien entre quartier et radicalisation. Bien campé sur sa jambe gauche, il assume aussi, ce sont quelques milliers d'individus face aux millions de ces gens des quartiers qui ont droit, ce sont encore ces mots, à une vie et une ville belle. Et ça, ce n'est pas un luxe.
Laurence Perron, invité de ce journal, Patrick Braouezec, président communiste du territoire de Pleine Commune en Seine-Saint-Denis. Bonsoir.
Bonsoir.
Patrick Braouezec, Emmanuel Macron se mobilise en faveur des quartiers populaires auxquels il veut notamment réserver l'essentiel des emplois aidés. Est-ce que vous êtes rassuré par cet engagement ?
Ben ça, tout dépend ce qu'on entend par quartier populaire. Ça veut dire quoi, quartier populaire ? Nous pensons que tous nos quartiers, aujourd'hui, au niveau de l'ensemble de nos villes, sont des quartiers populaires. On a aujourd'hui, nous, une population qui, dans son quasi-totalité, en tout cas dans sa très grande majorité, est populaire, au sens où ce sont des gens qui vivent de leur travail, qui sont salariés, qui ont, pour certains, qui n'ont pas de travail et qui essayent de vivre néanmoins correctement. Donc si effectivement les moyens sont donnés pour ces associations dans les quartiers populaires et qu'on entend bien ce que ça signifie, oui, bien sûr, pourquoi pas, il faut sans doute même démultiplier les moyens pour ces quartiers. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la politique de la ville, ça devait être, dans sa conception au départ, un passage transitoire en attendant qu'on rattrape les inégalités, on réduise les inégalités, qu'on rattrape l'égalité républicaine. Nous, on se bat aujourd'hui avec les services de l'État pour que les politiques de droit commun soient les mêmes pour tous. Quand on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'équipement public dans certains quartiers alors qu'ils existent ailleurs, quand on voit que la dotation, y compris par habitant au niveau des associations, est moindre dans nos villes, quand on voit que les services publics, je pense à La Poste par exemple, existent en nombre beaucoup moins important dans des villes de pleine commune que dans d'autres villes de l'ouest parisien, quand on voit que les enseignants ne sont pas remplacés dans les écoles de notre territoire alors qu'ils le sont ailleurs. Ce que l'on souhaite, c'est que la politique de droit commun revienne à l'égalité de traitement.
Patrick Braouezec, la création de zones franches pour attirer les entreprises dans ces quartiers, est-ce que c'est une bonne chose selon vous ?
Je suis assez mitigé sur ces zones franches. Pour avoir trois zones franches sur le territoire de pleine commune dont on a fait un bilan assez mitigé, je ne suis pas certain que ce soit la réponse. D'abord parce que dans ces zones franches, ce que l'on demande bien souvent, c'est aux entreprises qui s'y installent d'employer des jeunes ou des gens de la cité en question, ce qui n'est pas forcément non plus une très bonne chose. On considère que c'est aussi l'ouverture vers l'extérieur qui permet aussi aux jeunes ou aux gens qui sont privés d'emploi de trouver des solutions plus pérennes. Je crains l'assignement non seulement en résidence, mais au travail dans le même quartier, ce qui n'est pas une très 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 bonne chose. Et puis je considère que là aussi on doit réfléchir, et c'est ce que l'on essaie de faire sur notre territoire, aux évolutions du monde du travail. Et je pense que autant je suis pour qu'on ait des expérimentations sur les territoires par rapport à justement cette question du monde du travail qui évolue. On ne connaît pas aujourd'hui les conséquences et on n'aurait plutôt intérêt à les anticiper de la robotisation, de la mécanisation du monde du travail qui va toucher directement les emplois les plus précaires. Et on devrait, à mon sens, plutôt avoir des actions de formation, d'état des lieux par rapport à ces questions de mutation du monde du travail et puis de formation par rapport aux métiers qui sont porteurs d'avenir et sans doute faire sortir les jeunes de leur cité plutôt que de les assigner à la fois à résidence et au travail dans un même quartier.
Dernière question, Patrick Braouezek, concernant la loi olympique qui arrive demain en Conseil des ministres, un texte qui doit permettre une maîtrise du budget pour les JO 2024 de Paris. Est-ce que, selon vous, la Seine-Saint-Denis va vraiment bénéficier de la manne olympique ?
La Seine-Saint-Denis va sans doute bénéficier des investissements qui vont être réalisés effectivement dans le cadre de cette candidature Paris 2024. D'abord, l'argent du CIO. Il ne faut pas oublier que le CIO va contribuer à hauteur de 3,6 milliards dans ses investissements et puis aussi dans les investissements qui sont à la charge de l'État et des autres institutions françaises à hauteur de 3 milliards, 1,5 milliard public, 1,5 milliard privé. Et il faut effectivement qu'on veille à ce que cet argent soit bien utilisé, bien évidemment pour organiser des Jeux olympiques confortables pour les athlètes olympiques et paralympiques, mais aussi dans l'héritage de ces investissements, c'est-à-dire savoir ce que va devenir le village olympique, ce que va devenir le centre aquatique olympique, ce que va devenir le village des médias. Pour notre part, nous avons beaucoup œuvré pour que le village olympique ne se transforme pas comme ça l'a été toujours, et comme ça l'était inscrit au départ, 17 000 lits égale 3 500 logements. Nous avons considéré qu'on ne pouvait pas reconvertir le village olympique simplement en quartier de logement et qu'il fallait qu'on ait un quartier plurifonctionnel avec toutes les fonctions humaines. Et c'est pour ça qu'on s'est battu pour que l'équation ne soit pas 17 000 lits égale 3 500 logements, mais 17 000 lits égale 2 200 logements et puis des lieux d'activité, des surfaces pour accueillir des start-up, pour accueillir du coworking, des fab labs, des artisans, des artistes, des équipements publics, de façon à ce qu'on crée un vrai quartier de ville et non pas simplement un quartier de logement. Nous attendons de cette loi olympique que finalement elle mette en œuvre l'ensemble d'un projet qui soit un projet bien sûr pour l'organisation des Jeux, mais qui soit ensuite fier de son héritage.
Patrick Braouezek, président de la communauté d'agglomération Le Territoire de Pleine Commune, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Le gouvernement prépare-t-il une révolution pour l'audiovisuel public? En tout cas, les dirigeants des sociétés concernées devaient rendre aujourd'hui leurs réflexions sur le sujet. Radio France, France Télévisions, l'INA et France Média Monde. Mais ce calendrier a été remis en cause par les révélations du journal Le Monde. Le quotidien publie un document du ministère de la Culture qui contient des propositions radicales, Abdelak El-Idrissi.
Et il y a comme un gros décalage entre d'un côté les propositions faites par les responsables des entreprises audiovisuelles et de l'autre le contenu du document du ministère qui a fuité. De ce que l'on connaît déjà des notes des PDG, il y est question de réflexions éditoriales, de préservation des missions de service public, d'optimisation des coûts ou encore de synergie. Le patron de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, propose ainsi de créer une plateforme vidéo à la demande avec France Télévisions pour devenir une sorte de Netflix à la française. Dans une interview récente au JDD, le PDG de Radio France redisait l'importance de s'adapter aux nouveaux modes de consommation des médias et proposait d'étendre la redevance audiovisuelle pour financer la transition numérique des entreprises publiques. Autant de propositions qui paraissent désormais extrêmement fades à côté du document révélé hier par nos confrères du Monde. Sur ce document, il y est plutôt question de fusionner les entreprises de l'audiovisuel public, d'arrêter certaines chaînes et d'en basculer d'autres uniquement sur Internet pour faire des économies. Il y est aussi question de réduire la masse salariale, notamment via des départs contraints. Alors quel est le plan exact du gouvernement pour l'audiovisuel? Est-ce que ce document qui a fuité n'est qu'un document de travail, comme le dit le ministère de la Culture qui a annoncé sa volonté de porter plainte, ou bien s'agit-il de pistes privilégiées? Les patrons de l'audiovisuel public attendent une clarification du gouvernement sur l'ampleur de la réforme à mener, car cette réforme pourrait intervenir dès l'année prochaine.
Abdelak El-Idrissi, merci. La ministre de la Culture Françoise Nyssen a affirmé aujourd'hui à l'Assemblée qu'elle n'écartait aucune piste pour la réforme de l'audiovisuel public, même si le gouvernement privilégie pour l'instant des coopérations et des synergies entre les différents acteurs. La polémique entre Charlie Hebdo et Mediapart s'envenime. Dans son dernier éditorial, Riss accuse Edoui Plenel, je cite, de condamner à mort la rédaction de Charlie. Le directeur de l'hebdomadaire satirique reproche à son homologue de Mediapart une phrase. La une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne générale de guerre aux musulmans. Sur les antennes de Radio France, Edoui Plenel avait dénoncé en ces termes sa caricature en couverture de Charlie. Riss estime que cette phrase met en danger les journalistes de l'hebdomadaire. La météo demain, un temps frais, gris et humide au nord, avec quelques gouttes possibles de la Normandie aux Ardennes. Au sud, le soleil s'imposera après la dissipation des brouillards matinaux. Température maximale en hausse, 6 à 13 degrés en général, de 15 à 20 degrés sur le pourtour méditerranéen. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.